الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا اليوم هو 16 من شهر ذي القعدة من عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس الرابع من قراءة الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes le 29 juillet 2018 et nous voici réunis pour le quatrième cours de l'étude de la recommandation mineure de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Nous nous sommes arrêtés lorsque l'auteur rahimahullah parlait de l'importance du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala al-dhikr. Ceci car le dénommé Abul Qasim al-Sibti rahimahullah l'a interrogé sur la meilleure action, l'action la plus méritoire après les obligations. Et l'auteur rahimahullah lui a répondu en disant que cela dépend des gens, de ce qu'ils sont capables de faire. Cela dépend également des moments, des périodes. Ainsi, il est impossible de donner une réponse identique pour tout le monde. Car il faut prendre en compte dans l'éducation, dans le conseil, les capacités de la personne à qui tu t'adresses. Mais il est clair que les savants sont unanimes pour dire que la meilleure chose par laquelle le serviteur occupe son temps, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'attire votre attention sur la parole précise de l'auteur rahimahullah lorsqu'il dit لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره. Mais il est comme un consensus entre les savants, les connaisseurs d'Allah et de son ordre. Ibn Taymiyyah rahimahullah est précis dans ses paroles. Il a décrit les savants comme étant les connaisseurs d'Allah et de son ordre. Subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah lui-même, rahimahullah, dans un de ses écrits, a parlé des savants et des catégories des savants. Et il a rapporté une parole du dénommé Abu Hayyan al-Taymi, rahimahullah, qui a dit « Al-ulama ou thalatha » Les savants sont trois. Les savants sont trois. « Alimun billah » Laisse aliman bi amrillah. Celui qui connaît Allah et ne connaît pas l'ordre d'Allah. Wa alimun bi amrillah laisse aliman billah. Celui qui connaît l'ordre d'Allah mais ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alimun billah wa bi amrillah. Celui qui connaît Allah et l'ordre d'Allah. Il dit wal alimu billah alladhi yakhafu Allah. Et celui qui connaît Allah est celui qui a peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous parle d'un sujet qui fait l'unanimité des connaisseurs d'Allah et de l'ordre d'Allah. Car il y a des gens qui ont des connaissances dans les règles islamiques, dans la jurisprudence, mais qui ont la croyance fausse et qui n'ont pas assez de connaissances des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la bonne croyance, des attributs d'Allah azza wa jal. Le vrai croyant, le vrai savant, pardon, est celui qui connaît Allah par ses noms, ses attributs. Il connaît le droit d'Allah sur ses serviteurs, il connaît le tawhid, il connaît l'unicité d'Allah azza wa jal. Il a la bonne croyance en Allah et qui connaît les ordres d'Allah, ses règles, ses interdits, ses obligations. Ces savants-là qui connaissent Allah tabaraka wa ta'ala et qui connaissent son ordre sont presque unanimes pour dire que la meilleure chose par laquelle le serviteur occupe son temps, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il a cité quelques hadiths, et nous en avons cité un la fois passée. Il dit: « وَفِيمَ رَوَاهُ أَبُو دَوُودَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: ne vais-je pas vous informer de la meilleure de vos œuvres? وأزكاها عند مليككم, la plus pure d'entre elles auprès de votre maître. وأرفعها في درجاتكم, celle qui vous élève le plus en degré. وخير لكم من إعطاء الذهب والورق, والورق معناه الفضة, et qui est meilleur pour vous que d'offrir, de donner, de faire don de l'or et de l'argent. ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم, est meilleur aussi pour vous que de rencontrer votre ennemi duquel vous frapperez les coups et qui frapperait le vôtre. قالوا بلى يا رسول الله, ils répondirent: si, ô messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors: qala dhikrullah subhanahu wa ta'ala. Il leur rappela alors l'importance du rappel d'Allah dans ce hadith, et en réalité le mérite fadlu dhikrillah azza wa jal ja'a fi nususin kathira min al-Qur'an wa sunnah. Dans beaucoup de textes du Coran et de la Sunna, les mérites du rappel d'Allah sont relatés par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة, وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم, كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره, وعند أخذ المضجع, وعند الاستيقاظ من المنام, وأدبار الصلوات. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala continue, et il est toujours en train de parler sur le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit: les preuves issues du Coran et de la foi sont nombreuses. Et en arabe, il dit « basaran wa khabaran wa nadharan ala dhalika kathira ». Pour vous résumer cela, c'est-à-dire les preuves, que ce soit celles qui sont dans les textes du Coran et de la Sunna, ou alors même ce que l'on retrouve dans l'expérience de la personne qui évoque Allah abondamment, subhanahu wa ta'ala, dans la pratique, on retrouve cela énormément. La moindre des choses est que le serviteur s'accroche aux invocations prononcées par l'enseignant du bien et l'imam des pieux, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'après nous avoir parlé de l'importance du rappel d'Allah de manière globale, il va maintenant nous donner un minimum qu'il incombe aux croyants de suivre et de respecter. Quel est ce minimum dans le rappel d'Allah ? Car Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans le Coran de l'évoquer abondamment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne et nous enseigne de l'évoquer abondamment. Subhanahu wa ta'ala. Il y a un minimum que le musulman doit observer. Ce minimum nous a été enseigné par l'enseignant du bien, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les invocations délimitées, comme celle en début et fin de journée, au coucher et au lever du soleil, après le sommeil, après les prières obligatoires, ou les invocations liées à des actions précises, on parlera plus tard, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah abondamment, plus que quiconque. Il mettait en pratique l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala: اذكروا الله كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا, évoquez Allah abondamment. Et c'est pour cette raison que vous retrouvez dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa manière de vivre, dans les différentes actions du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vous retrouvez énormément de paroles de dhikr, des vocations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le dhikr, dhikrullah azza wa jal, est une façon de renouveler en toi ta foi. Tajdidun lil iman, tajdidun lil tawhid, tajdidun bima'rifatika billah subhanahu wa ta'ala. Lanna al-adhkar fiha asma'ullah. Les invocations, les formules de rappel, dhikr, on y retrouve les noms d'Allah. On y retrouve le droit à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, la personne qui évoque Allah azza wa jal abondamment, ne fait que entretenir ce lien qu'elle a avec Allah. Al-dhikr lahu fawaid 'azima wa kathira. Le rappel d'Allah azza wa jal a beaucoup de mérite. Et l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah propose à son lecteur d'avoir au moins un minimum, afin de ne pas être comme les gens qui sont insouciants. Allah Azza wa Jalla a dit: "Wa la takunu kalladhina nasu Allah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Ne soyez pas comme les gens qui ont oublié Allah. Il leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Il dit: les invocations qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam au début et en fin de journée, Adhkar al-Sabah et al-Masa, ces fameuses invocations que l'on appelle les invocations du matin et du soir. Il nous cite aussi d'autres invocations telles que au coucher et au lever du soleil, après le sommeil, après les prières obligatoires, ou les invocations qu'il va citer après. Et toutes ces invocations-là que vous voyez ont été prononcées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on les retrouve dans des écrits. On les retrouve dans l'authentique de l'Bukhari, on les retrouve dans l'authentique de l'imam Muslim, et on les retrouve dans des livres de recueils de hadiths compilés par des savants ou des gens de science ou des étudiants et ayant des chapitres. Et d'ailleurs, parmi les livres très bénéfiques dans ce sujet, il y a Fiqh al-Ad'iyati wal-Adhkar, la compréhension des invocations et rappels, du Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidhahullah, qu'Allah nous a facilité d'enseigner. Du moins, nous avons pu enseigner les invocations en rapport avec des moments, des actions et tout cela, pas le livre entièrement. Et je vous incite et vous invite à y revenir et à écouter les explications données à chacune de ces invocations. L'auteur rahimahullah a dit: wa adbar as-salawat, après les prières, les invocations que l'on prononce après les prières. Lorsque l'on dit après les prières, certains savants ont dit dubur as-salah ma'nahu ba'd at-taslim, c'est-à-dire après la salutation. Le Cheikh Ibn Razzaq a dit que al-aqrab, le plus proche de la réalité, est que ce qui est voulu par dubur as-salah qabla at-taslim ba'd at-tashahhud bayna at-tashahhud wa at-taslim li'annahu fi akhir as-salah. Il dit que ce qui est voulu, c'est juste après avoir prononcé le tashahhud, juste avant la salutation dans la prière. Et ça, c'est un moment où il est bon, il fait partie de la sunna, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu termines ta prière, tu vas prononcer le tashahhud, tahiyyatu lillah, jusqu'à la fin. Ensuite, tu vas prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, jusqu'à la fin. Ensuite, tu vas demander à Allah de te protéger contre quatre choses, Allahumma ni'udhu bika min adhab jahannam, jusqu'à la fin. Et après cela, juste avant le taslim, il est bon à ce moment-là d'en profiter pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de cela que parle l'auteur rahimahullah. Les invocations se divisent en deux. Les formules de rappel, al-adhkar qisman, al-adhkar al-mutlaqa ou al-adhkar al-muqayyada. Il y a les invocations absolues qui ne sont pas rattachées à quelque chose, et il y a les invocations rattachées à des situations. Et c'est ce que va citer l'auteur rahimahullah lorsqu'il nous dit: wal adhkar al-muqayyada مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند المطر والرعد إلى غير ذلك. وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة. L'auteur rahimahullah nous dit ou les invocations liées à des actions précises, comme au moment de manger, boire, s'habiller, avoir un rapport sexuel, entrer chez soi, à la mosquée, aux toilettes, de même en sortant de ces différents lieux, lorsque la pluie tombe ou que le tonnerre gronde, et bien d'autres encore. Pour que tu comprennes qu'il y a des invocations à chaque situation. Il y a donc des invocations, des formules de dhikr rattachées à une situation ou alors rattachées à un temps. On appelle cela al-adhkar al-muqayyada. Muqayyada bi-waqt ou muqayyada bi-hal. Des invocations qui sont rattachées à un moment précis, adhkar al-sabah wal-masa, qui sont rattachées à une situation particulière, adhkar al-libas, les invocations à prononcer lorsque tu portes les vêtements, ou al-libas al-jadid, les nouveaux vêtements, al-zawaj, le mariage, et bien d'autres encore, comme l'a dit l'auteur, rahimahullah. Et il y a des invocations qui sont à répéter dans n'importe quelle situation. Des livres ont été écrits concernant ce sujet, intitulés « Amalul Yawmi wal Layla », les œuvres du jour et de la nuit. Ça, c'est le titre d'un livre écrit par l'imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Et il y en a aussi beaucoup d'autres dans ce sujet. J'ai fait allusion à l'un d'entre eux, écrit par le Cheikh Abdelrazzaq. Mais il y a d'autres aussi livres, comme celui de l'imam Ibn al-Qayyim, le livre appelé Al-Wabil al-Sayyib, Min al-Kalim al-Tayyib, la pluie abondante de bonnes paroles. Il y a aussi Al-Kalim al-Tayyib de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et d'autres encore. ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله لا إله إلا الله. Il nous dit ensuite, le serviteur doit s'accrocher à l'invocation et au rappel de manière absolue. Après avoir fait les invocations du matin, du soir, les invocations relatives à des situations particulières, à des moments particuliers, il doit aussi s'attacher de manière générale, de manière plus large, de manière plus absolue, au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure de ces paroles, la meilleure des formules de rappel absolues, qui ne sont pas rattachées à un temps particulier ou autre, c'est quoi? La ilaha illallah, kalimatu tawhid. C'est la meilleure des paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, khayru du'a, du'a u yawmi arafa. La meilleure invocation est celle prononcée le jour de Arafah. Et la meilleure chose que j'ai dite et qui a été dite par les prophètes m'ayant précédé, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Comment ne serait-elle pas la meilleure des paroles alors qu'elle est le but de notre création? Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. بهذه الكلمة يدخل الجنة داخلها وبتركها يدخل النار داخلها. Par cette parole, celui qui l'applique y entre et celui qui la délaisse entre au feu. Tous les prophètes ont été envoyés pour appeler à la ilaha illallah. C'est la meilleure des paroles. وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. الأصل أن كلمة لا إله إلا الله أفضلها، وهناك أحوال قد تكون غيرها أفضل منها. ابن تيمية رحمه الله nous dit que لا إله إلا الله est la meilleure parole, mais il nous dit et en certaines situations le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, et la hawla wa la quwwata illa billah est parfois meilleur. C'est-à-dire, que de dire la ilaha illallah. Ça, c'est la science du shirk profonde. Il nous informe que la parole la ilaha illallah est la meilleure des paroles. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il nous dit qu'il peut, il peut y avoir des moments ou des situations où il est meilleur de dire ces autres paroles. C'est-à-dire, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, la parole subhanallah, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que tu reconnais et que tu déclares qu'Allah tabaraka wa ta'ala est loin et exempt de toute imperfection. Subhanallah, ay anna Allah azza wa jalla munazzah, ba'id an kulli naqais wal uyub. Et c'est pour cette raison que Allah tabaraka wa ta'ala a cité énormément de fois dans son livre la parole subhanallah, subhanallah, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala a cité cette parole dans de nombreux versets du livre. Et d'ailleurs le prophète aussi sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que il y a deux paroles légères dans la langue, lourdes dans la balance et très aimées du tout miséricordieux. Quelles sont ces paroles? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Qu'est-ce que tu dis en recours, en inclinaison? Qu'est-ce que tu dis lorsque tu es prosterné en sujoud? سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى هذه الكلمة تصحبك في حياتك كلها. Cette parole t'accompagne tout au long de ta vie. فلا بد أن تفهم معناها. Tu as l'obligation de connaître le sens de cette parole. سبح dans la langue arabe معناه الابتعاد أو البعد. سبح dans la langue arabe veut dire le fait de s'éloigner. Et c'est pour cette raison que la nage en arabe a été appelée as-sibaha. لِأَنَّ الَّذِي يَسْبَحْ يَبْتَعِدْ كُلَّمَا سَبَحَ يَبْتَعَدْ عَنْ مَكَانِهِ الْأَوَّلِ. On appelle la nage as-sibaha, c'est un mot qui contient les mêmes lettres retrouvées dans subhanallah, car il y a la même notion linguistique de base qui est l'éloignement. Celui qui nage, il s'éloigne de la rive. Il s'éloigne de l'endroit où il a commencé à nager. Lorsque tu dis subhanallah, tu déclares qu'Allah subhanahu wa ta'ala est loin de toute imperfection, de tout défaut. Tabaraka wa ta'ala. Ce que vous venez d'entendre ne vient pas de celui qui vous parle, mais a été entendu du Cheikh Atiyah Muhammad Salim rahimahullah dans le commentaire des 40 hadiths. Faidatun azima. C'est une leçon très riche. Donc voici le sens de subhanallah. فَإِذَا قِيلَ فِي حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ مَا هُوَ بَرِيءٌ مِنْهُ وَإِذَا وُصِفَ بِمَا هُوَ بَعِيدٌ عَنْهُ يُشْرَعًا يُقَالْ سُبْحَانَهُ. Lorsqu'il est dit d'Allah quelque chose qui est faux, lorsqu'il est dit d'Allah tabaraka wa ta'ala quelque chose par quoi il n'est pas décrit, lorsqu'un mensonge est proféré sur Allah, lorsque les noms, les attributs d'Allah sont altérés et les sens en sont changés, il est légiféré de dire subhanallah. Méditez la parole d'Allah. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. Ils ont dit Allah s'est donné un enfant. Comment Allah a répondu? Subhanahu. Pourquoi? Parce qu'avoir un enfant, c'est pour les créatures. Avoir un enfant, c'est un besoin. Avoir un enfant, c'est un manque. Le besoin d'une compagnie, le besoin d'aide, le besoin de joie. Et Allah n'a pas le besoin. Ainsi, Allah Azza wa Jal s'est déclaré loin de ce besoin. Car c'est une imperfection. C'est pour cela qu'il répond Subhana. Dans des situations comme celle-ci, dire Subhanallah est meilleur que de dire La ilaha illallah. Alhamdulillah. Il est parfois meilleur de dire Alhamdulillah que la ilaha illallah, bien que la ilaha illallah soit meilleure à la base que alhamdulillah. Dans le hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akla fa yahmadahu 'alayha wa yashraba ash-sharba fa yahmadahu 'alayha. Allah est satisfait de son serviteur qui avale une bouchée et dit alhamdulillah, qui avale une gorgée et dit alhamdulillah. Quelle est la meilleure chose après avoir avalé une bouchée, une gorgée? C'est dire alhamdulillah, même si la ilaha illallah est meilleure. Vous avez compris? C'est ce que veut dire l'auteur. Il dit Wallahu Akbar lorsque l'appel à la prière est élevé et que tu entends Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qu'est-ce que tu dois dire? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et ça sera meilleur pour toi que de dire La ilaha illallah. Bien que La ilaha illallah à la base est meilleur que Allahu Akbar. Il dit Wala hawla wala quwwata illa billah. Cette parole aussi que tu répètes par exemple lorsque tu entends Hayya ala salah. Cette parole par laquelle tu demandes l'aide d'Allah et tu reconnais que l'aide, que la force ne viennent que de lui. Subhanahu wa ta'ala. Il y a des moments où il est meilleur de dire cette parole. Mais pour résumer tout cela, toutes ces paroles, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah, sont des paroles de dhikr qui ne sont pas rattachées à des situations ou moments particuliers, et elles sont les plus belles paroles chez Allah. Ahabbul kalami ilallahi subhanahu wa ta'ala. Qui est dans l'incapacité de dire pendant qu'il marche Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Donc voilà ce que voulait dire l'imam rahimahullah ta'ala. ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها فهذا أيضا أفضل ذكر الله. ابن تيمية رحمه الله continue et nous dit: de même que le serviteur sache que toute parole prononcée par la langue ou pensée au fond du cœur et qui peut rapprocher le serviteur d'Allah est un rappel. Cela peut être l'apprentissage d'une science, l'enseignement d'un savoir, une recommandation au bien, une interdiction d'un mal et autres. Voilà pourquoi celui qui se préoccupe de rechercher le savoir bénéfique après avoir accompli les œuvres obligatoires et assiste à des cercles d'études pour y apprendre et comprendre. Vous avez vu? Encore une fois, il parle de la compréhension. Ça fait combien? 4. Encore une fois, il parle de la compréhension. Pour y apprendre et comprendre la jurisprudence, ce qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont appelé fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence, la compréhension de la religion, ceci est parmi le meilleur rappel d'Allah. Al-an yatawassa'. Maintenant, il élargit sa parole. Il t'a tout d'abord parlé du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala rattaché à un temps, ensuite rattaché à des situations, ensuite le rappel de manière absolue en te montrant que les meilleurs sont la ilaha illallah et celles qui ont été citées après, et que celles qui ont été citées après peuvent être meilleures en fonction de la cause ou du moment où il faut le dire. Ensuite, de manière plus vaste encore, il attire ton attention sur le fait que tout ce que la langue peut prononcer, tout ce qui peut être contenu dans le cœur, tout ce qui peut être appris comme science ou enseigné, tout ordre d'obéir à Allah, toute interdiction, les choses qu'Allah n'aime pas, le fait de s'occuper par la science, la quête du savoir, le fait de s'asseoir dans une assise d'apprentissage, tout cela fait partie du meilleur rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour cette raison, chez un des salafs, dans l'assise de science, un des étudiants présents a dit « Sabbihullah » ou comme il a dit « Évoquez Allah » L'enseignant lui a dit: Waihak, ماذا نفعل الآن? Malheur à toi, que sommes-nous en train de faire? Tu dois savoir que lorsque tu es assis dans un dars, dans une assise de rappel, dans une assise de science, où les versets d'Allah sont étudiés, où les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont enseignées, tu dois savoir que tu es dans un des meilleurs moments de dhikr. Et ton cœur ne doit pas être insouciant à cela. Tu es en train d'évoquer Allah. Et il y a des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par exemple: وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ. Jusqu'à la fin du hadith, le peuple qui se réunit dans une des demeures d'Allah pour y lire son livre et l'étudier entre eux, qu'est-ce que c'est si ce n'est طَلَبُ الْعِلْمِ et le dars, le cours de science. فَهَذَا مِنْ تَوْفِيقِ اللَّهِ لَكْ هَذَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَمِنْ هِدَيَتِهِ لَكْ إِلَى هَذَا الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Cela fait partie de la guidée qu'Allah t'a accordée vers son droit chemin. Combien ont été privés de ces assises? كَمْ مِنَ النَّاسِ حُرِمُوا خَيْرَ هَذِي الْمَجَالِسِ فَضَيِّعُوا أَوْقَاتَهُمْ فِي مَجَالِسِ الْقِيلِ وَالْقَالِ. Ils ont été perdre leur temps dans les assises des on-dit, les assises où on parle de tout et de rien, au lieu de venir s'instruire. Réveillez-vous. Aujourd'hui, des gens viennent te voir et te disent: qu'est-ce que tu fais comme dars? C'est dans quelle mosquée? Et il sait qu'il ne va jamais venir. Parce que le cœur est insouciant. Il te demande à quelle heure il y a dars, à quelle mosquée, à quel endroit. Il sait dans son fort intérieur qu'il ne va pas venir. Et remets-toi en question. Qu'est-ce que tu vas faire pendant ce moment-là? La question n'est pas un tel ou un tel. La question est d'aller étudier ta religion, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pire encore, lorsque c'est un cheikh qui vient de loin et qui tient des assises bénéfiques, remplies de science, et l'on voit que des gens qui prétendent aimer la science, qui prétendent aimer la sunna, qui prétendent aimer le tawhid, au final, sont toujours absents dans ces assises. Wallahi mahroumoun. Par Allah, ils ont été privés de bien. Ils ont été privés de bien. Wallahu al-musta'an. Wa ala dhalika idha tadabbarta lam tajid bayna al-awwalina fi kalimatihim fi afdal al-a'mali kabir ikhtilaf. Ainsi, lorsque tu médites sur cela, tu ne trouves pas dans les propos des premières générations une grande divergence concernant la plus méritoire des œuvres. Car à chaque fois, en réalité, toutes ces œuvres font partie du rappel d'Allah. Donc, quoi qu'il en soit, le rappel d'Allah est la meilleure des œuvres. Il nous dit ensuite: وَمَا اشْتَبَهَ أَمْرُهُ عَلَى الْعَبْدِ فَعَلَيْهِ بِالِاسْتِخَارَةِ الْمَشْرُوعَةِ فَمَا نَدِمَ مَنْ اسْتَخَارَ اللَّهَ تَعَالَى وليكثر من ذلك ومن الدعاء فإنه مفتاح كل خير ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك. Et si l'affaire demeure ambiguë, là il parle un peu d'autre chose, mais ça rentre dans le rappel d'Allah. Si l'affaire demeure ambiguë, il convient au serviteur d'accomplir la prière de consultation légiférée. Car en effet, quiconque consulte Allah pour une affaire n'aura jamais de regret. Subhanahu wa ta'ala. Il se doit de multiplier cela ainsi que les invocations, car c'est la clé de tout bien, et qu'il ne montre pas d'empressement en tenant des propos comme les suivants: j'ai invoqué mais on ne m'a pas répondu. Qu'il se libère dans les temps méritoires, comme le dernier tiers de la nuit, après les prières obligatoires, après l'appel à la prière, au moment où la pluie tombe, et ainsi de suite. Ibn Taymiyyah rahimahullah nous parle de ce que doit faire le musulman qui veut entreprendre un projet, mais qui lui paraît ambigu. quelque chose qu'il veut faire pour laquelle ou pour lequel il a un doute. Il ne sait pas s'il doit s'avancer ou reculer ou reporter. Il est hésitant. On ne parle donc pas, lorsqu'on parle de salat et l'istikhara, de choses qui sont légiférées par Allah. C'est une erreur. Par exemple, de faire la prière de consultation pour savoir si on va aller au pèlerinage ou pas. Le pèlerinage, c'est un pilier de l'islam. Pourquoi est-ce que tu consultes Allah? Allah te l'a rendu obligatoire. Al-istikhara, la consultation, c'est pour quelque chose qui te laisse hésitant. Il n'y a pas un ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, épouser telle ou telle personne, acheter telle ou telle voiture, construire telle ou telle maison, se rendre dans tel ou tel endroit, s'associer à telle ou telle personne, et ainsi de suite. Lorsque l'affaire est ambiguë, donc vous avez compris de quoi est-ce qu'il parle lorsqu'il dit l'affaire, il convient au serviteur d'accomplir la prière de consultation écoutée, al-mashru'a, prescrite. Là, comme يريد الإنسان بطريقة مبتدعة, là, بطريقة مشروعة, non pas comme l'homme veut, comme l'homme veut lui-même choisir. Il consulte Allah comme il veut. Non, il le fait à la manière prescrite par Allah, subhanahu wa taala. Le prophète alayhi salat wa salam, كان يعلم أصحابه دعاء الاستخارة كتعليمه لهم سورة الفاتحة أو السورة من القرآن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait aux compagnons la prière de consultation et l'invocation qu'il faut prononcer à ce moment, tout comme il leur enseignait une sourate du Coran. Dis-toi un peu ce que ça veut dire et comprends maintenant l'importance de la prière de consultation. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit que lorsque l'un d'entre nous veut faire quelque chose et qu'il est hésitant, qu'il prononce les paroles suivantes. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Oh Allah, je t'implore de choisir par ta science. Astaqdiruka bi'qudratik. Et je t'implore de m'accorder la capacité. Parce que là, tu vas lui demander quelque chose que tu veux faire. Et pour faire, tu as besoin qu'il choisisse pour toi. Et s'il choisit pour toi, tu as besoin qu'il te donne la capacité de faire. وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ. Et je t'implore de m'accorder ta grande grâce. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ. Car certes, tu es capable et je ne le suis pas. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ. Tu sais et j'ignore. وَأَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ. Et tu es connaisseur de l'invisible. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر. Oh Allah, si tu sais que cette affaire خَيْرٌ لِي était bien pour moi. فِي مَعَاشِ dans ma vie. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في معاشي في ديني ومعاشي dans ma religion, dans ma vie, وعاقبة أمري, et dans la fin, dans le résultat, ce qui va être obtenu jusqu'à la fin du hadith où tu demandes à Allah Azza wa Jal de te l'écrire, de te le faciliter. Et s'il sait que cette chose est mauvaise pour toi, pour ta religion, pour ta vie, pour ton au-delà, alors qu'il t'en éloigne et qu'il éloigne cette chose de toi. Cette invocation est immense. Qu'est-ce qui va apprendre salat ou l'istikhara? Je vous pose la question, vous tous. Qui va apprendre, qui connaît salat et l'istikhara? Man yahfadu du'a l'istikhara? Faqat, un seul, celui qui connaît la prière de consultation, qu'il lève sa main. Muhammad, tahfadouha, taqraouha fil kitab. Tayyib, comment vous faites? Je vous pose la question, mes frères. Comment faites-vous lorsque vous entreprenez quelque chose? Vous demandez à qui? À Allah, tabaraka wa ta'ala. Vous faites comment? Apprenez salat al-istikhara, apprenez dua al-istikhara, apprenez à invoquer Allah, apprenez les paroles, apprenez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam par cœur. Barakallahu fikum. Et apprenez le sens aussi. Tayyib. et le musulman doit multiplier cela, ainsi que les invocations, car c'est la clé de tout bien, et qu'il ne montre pas d'empressement en tenant des propos comme les suivants. Là, il va parler de quelque chose d'important. « La yakfi an tad'u » Ça ne suffit pas que tu invoques. « Walakin indama tad'u alayka an tata'addab » Wa min adab ad-du'a alla tasta'jil. Fa kayfa yakunu al-isti'jal? Parmi les comportements à adopter lorsque tu invoques Allah, tu ne dois pas t'empresser. Et comment est-ce que la personne s'empresse? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. On exauce l'invocation de l'un d'entre vous tant qu'il ne s'empresse pas. Les sahaba radhiyallahu anhum ont demandé comment la personne s'empresse, il leur a dit يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي. C'est le fait de dire j'ai invoqué mais il ne m'a pas répondu. Cette parole là, c'est de l'empressement dans l'invocation. Ne dis pas j'ai invoqué mais il ne m'a pas répondu. Al-Sheikh ibn al-Uthaymin rahimahullah nous dit, s'il y avait comme mérite dans l'invocation d'Allah Azza wa Jal le simple fait qu'elle est une adoration récompensée par Allah, ça sera amplement suffisant pour invoquer tout le temps Allah, même s'il nous exauce jamais. Car quand tu invoques, tu as des hasanat. Anta al-an indama tad'u Allah azza wa jal, tata'abbad lillah, ta'abud Allah azza wa jal. Tu es en train d'adorer Allah. Parce que quand tu demandes, ça veut dire que tu as la croyance dans ses noms et attributs, qu'il t'entend, qu'il te voit, qu'il connaît le contenu de ton cœur, qu'il connaît ta sincérité, qu'il est capable de répondre à ton invocation, qu'il est capable de t'enrichir comme tu lui demandes la richesse. Ça engendre tout cela. Que tu l'aimes, que tu espères qu'il te réponde, que tu crains son châtiment. Donc, le fait d'invoquer fait développer dans ton cœur toutes ces choses-là. Même si Allah ne te répond jamais, c'est suffisant pour l'invoquer tout le temps. Que dire alors qu'Allah Azza wa Jalla a dit « Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum » Allahu Akbar. Et votre Seigneur a dit « Invoquez-moi et je vous exaucerai » Subhanahu wa ta'ala. Qu'il se libère dans les temps méritoires, comme le dernier tiers de la nuit, après les prières obligatoires, après l'appel à la prière, au moment où la pluie tombe et ainsi de suite. Il nous parle des moments où l'exaucement des invocations est plus propice. Certains ont été cités par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans son livre intitulé Ad-da'u wad-dawa. Dans son livre intitulé Ad-da'u wad-dawa, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a cité des moments parmi lesquels ceux que l'on retrouve ici, le dernier tiers de la nuit. Après les prières obligatoires, vous avez compris de quoi il s'agit, c'est juste avant le taslim. Après l'appel à la prière, au moment où la pluie tombe, dans tout cela il y a des hadiths. Il y a d'autres occasions encore, la doua du jeûneur, la doua du voyageur, le pèlerin et bien d'autres encore. Le fait de choisir les bons moments quand on invoque Allah. Et ainsi, l'auteur rahimahullah a terminé le point concernant la meilleure action après les actions obligatoires. Il dit maintenant وَأَمَّا أَرْجَحُ الْمَكَاسِبِ فَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَالثِّقَةُ بِكِفَايَتِهِ وَحُسْنُ الظَّنِّ بِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُهْتَمِّ بِأَمْرِ الرِّزْقِ أَنْ يَلْجَأَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُوهُ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ فِيمَا يَأْثُرُهُ عَنْهُ نَبِيُّهُ صلى الله عليه وسلم كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. Ibn Taymiyyah rahimahullah passe au point suivant et lui dit: quant aux meilleures acquisitions, avant de continuer, vous vous souvenez que Abu al-Qasim al-Sibti rahimahullah l'a interrogé sur quatre choses, parmi lesquelles ce qu'il a appelé arjahul makasib, les meilleures acquisitions. c'est-à-dire le meilleur moyen de gagner sa subsistance. Écoutez bien, mes frères, car c'est très important. Vous remarquez que le questionneur lui demande quelle est la meilleure chose pour gagner les sous, pour gagner l'argent. Tu comprends ? Le commerce, le meilleur travail, le meilleur métier. C'est ce qu'il lui demande. Regardez la réponse du Tawhid. Concentrez-vous et écoutez la réponse d'un savant en Allah et qui connaît l'ordre d'Allah. Subhanallah. Au lieu de lui dire, je te conseille tel métier, tel commerce, travaille à ton compte, sois menuisier, sois vendeur, sois commerçant, regardez ce qu'il lui dit. وَأَمَّا أَرْجَحُ الْمَكَاسِبُ Quant aux meilleures acquisitions, فَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ C'est placer sa confiance en Allah. Avoir confiance en ce qu'il, en sa suffisance. Le fait qu'Allah nous suffit. Et avoir une bonne pensée de lui. Là, il ne répond pas encore à sa demande. Il va, avant de lui répondre, quel est le meilleur métier, quelle est la meilleure subsistance, il va attirer son attention sur deux points extrêmement importants dans la vie de celui qui recherche la subsistance, dans la vie du commerçant, dans la vie du travailleur, dans la vie de celui qui veut gagner son pain. Et ce sont des choses qui échappent à énormément, j'aimerais ne pas dire, à la plupart des gens. Ce premier point essentiel qui passe avant tout, avant d'aller chercher ta subsistance, avant de te poser la question quel est le meilleur travail, At-tawakkulu ala Allah, subhanahu wa ta'ala, placer sa confiance en Allah. At-tawakkulu ala Allah, placer sa confiance en Allah, c'est le cœur de l'islam. C'est une adoration qui permet à la personne de concrétiser l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir la pleine confiance qu'Allah te suffit, dit l'imam Ibn Qayyim, et avoir une bonne pensée de lui. Avant même que tu ne sortes de chez toi à la recherche de ton pain, de ton salaire, regarde l'état dans lequel tu dois être. Tu t'en remets à Allah tabaraka wa ta'ala. Tu es confiant qu'il te suffit et tu penses du bien de lui, qu'il ne te laissera pas, qu'il ne t'abandonnera pas. Subhanahu wa ta'ala. Regardez ce qu'il dit. وَالثِّقَةُ بِكِفَايَتِهِ Être confiant qu'il te suffira. Allah Azza wa Jalla a dit أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا N'est-ce pas qu'Allah est suffisant à son serviteur? Subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas qu'Allah est suffisant à son serviteur? Tu dois être confiant en Allah. Et là, il y a une erreur dans laquelle beaucoup de gens tombent. C'est ce que l'on appelle al-thiqatu bin-nafs, la confiance en soi. Ça n'existe pas la confiance en soi dans le tawhid. Dans le tawhid, on ne dit pas à la personne, tu as un manque de confiance en toi. La confiance, c'est en Allah seul. Comment est-ce que l'on peut avoir confiance en nous-mêmes alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ Ne me laisse pas m'en remettre à moi-même, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Donc voyez que cette parole est fausse. On ne dit pas, lorsqu'on éduque l'enfant, lorsqu'on conseille la personne, aie confiance en toi. Sois confiant en toi. Non. Dis-lui, tawakkal ala Allah tabaraka wa ta'ala. Fiqh billah. Sois confiant en Allah. Subhanahu wa ta'ala. Il faut corriger cette erreur qui est prononcée dans la langue des gens. Wa husnu dhanni bih. Avoir une bonne pensée d'Allah. Qu'Allah ne va pas te laisser. Même quand tu es dans la situation de difficulté, cette difficulté est un test. Elle ne doit pas te pousser à penser du mal d'Allah, à croire qu'il t'a laissé. Au contraire, si tu regardes les gens qui sont en dessous de toi dans l'épreuve, tu verras que par rapport à eux, il ne t'a pas laissé. Ça, c'est le premier point qu'il cite. Il dit, à savoir, il convient à celui qui aspire à chercher sa subsistance, celui qui veut gagner sa vie, de se diriger vers Allah et de l'invoquer, comme il l'a dit d'après son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment Allah nous éduque dans le hadith Qudsi, hadith divin rapporté par Muslim d'après le compagnon Abu Dharr, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah azza wa jal a dit: Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtu. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés sauf celui que j'ai nourri. Fastat'imuni ut'imkum. Demandez-moi de vous nourrir, je vous nourrirai. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtu. Ô mes serviteurs, vous êtes tous dévêtus, vous êtes tous nus, sauf celui que j'ai vêtu. Fastaksuni aksukum. Demandez-moi de vous vêtir, je vous vêtirai. Subhanallah. On est tous affamés, on est tous perdus, on est tous pauvres, on est tous dans le besoin. Et c'est Allah qui nous donne et qui répond à nos besoins. Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal t'appelle au tawhid pur. Ce verre d'eau qui a été posé ici, croyez qu'il vient de celui qui l'a servi? Il vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cet assoiffé qui est devant vous, s'il boit ce verre d'eau, qui est-ce qui lui a donné? C'est Allah tabaraka wa ta'ala. Les gens pauvres qui sont dans le besoin, qui va les nourrir et enrichir? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith est immense, car il te rattache directement à Allah et te détache des autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes tous affamés sauf celui que je nourris. Demandez-moi de vous nourrir et je vous nourrirai. Donc dans la recherche de la subsistance, tu dois te voir comme un affamé, tu dois te voir comme un assoiffé, et tu dois être convaincu que le seul à te nourrir et à t'abreuver est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier pas de la recherche de la subsistance. L'imam continue et dit: وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. Il cite un récit rapporté par l'imam al-Tirmidhi, si ce n'est qu'il a été jugé faible par l'imam al-Albani, rahimahumallah, mais le contenu est correct et on l'a retrouvé dans la pratique des sahaba. Le hadith est le suivant: que chacun d'entre vous demande à son Seigneur tout ce dont il a besoin, jusqu'au lacet de sa sandale, lorsque celui-ci est coupé, car cela ne lui sera pas facilité si Allah ne lui facilite pas. L'authenticité a été discuté par l'imam al-Albani, mais le contenu est juste. Le contenu est juste. Il est en accord avec des textes qui sont authentiques. Et il est connu que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu ta'ala anhum, n'hésitaient pas à tout demander à Allah. Et lorsque la semelle ou le lacet de leurs sandales se déchirait, ils levaient leurs mains et disaient: Oh Allah, donne-moi des sandales, donne-moi un lacet, donne-moi une semelle meilleure. Celui qui ne comprend pas le tawhid, celui qui ne connaît pas Allah tabaraka wa ta'ala, croit que l'on ne doit pas demander à Allah des choses insignifiantes, et que lorsque l'on demande à Allah, on ne doit lui demander que des choses qui sont très difficiles à atteindre. C'est faux. On demande tout à Allah, et plus on demande à Allah les choses les plus insignifiantes, c'est-à-dire qui nous paraissent insignifiantes, plus cela veut dire que l'on a compris que le seul qui peut tout nous donner, de la plus petite à la plus grande chose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la concrétisation du tawhid que d'agir ainsi. وقد قال الله تعالى في كتابه واسألوا الله من فضله وقال سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الله عز وجل a dit d'après le sens rapproché, demandez à Allah de sa grâce. Et dans l'autre verset, puis quand la prière est achevée, dispersez-vous sur terre et recherchez la grâce d'Allah. Cheikh Abdelrazak al-Badr nous dit que c'est comme si l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, par la citation de ces deux versets, attire l'attention sur le fait que dans la recherche de subsistance, on doit demander à Allah, puis faire les causes. Demandez à Allah, dans le premier verset, وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. Demandez à Allah de ses grâces. Et faire les causes, dans le deuxième verset, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَرُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Ainsi, quand la prière est achevée, propagez-vous, répandez-vous sur terre et recherchez la grâce d'Allah. Qu'est-ce que tu as fait en premier? Tu as invoqué Allah. Puis qu'est-ce que tu as fait après cette invocation? Tu es parti rechercher la subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses invocations du matin, après la prière du subh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Oh Allah, je t'implore de m'accorder une science utile, une bonne subsistance et une action acceptée. Et lorsque tu médites sur la journée du musulman, tu verras que le musulman, dès lors qu'il se réveille jusqu'à ce qu'il s'endort, il tourne autour de la recherche de ces trois choses. Il doit s'instruire dans la religion, il doit chercher sa subsistance, c'est pour ça qu'il part au travail, ou au commerce et autres, et il espère œuvrer et faire des actions qui lui soient acceptées. Le prophète, alayhi salatu wa salam, t'enseigne de dire ces paroles-là le matin après la prière du Fajr. Allahumma, inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Et quand tu médites, tu vois qu'il a fait passer la demande de la science utile avant la demande de la bonne subsistance et de l'action acceptée. Le secret derrière cela, c'est que c'est la science utile qui te permet de distinguer la subsistance licite de la subsistance illicite. Et c'est la science utile qui te permet de distinguer l'action acceptée d'Allah de l'action rejetée d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc tu as besoin en premier lieu de science, ensuite de subsistance, et enfin d'une action acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Soit Hakim. وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج أن يقول اللهم إني أسألك من فضلك وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وهذا أمر والأمر يقتضي الإجاب فالاستعانة بالله واللجوء إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم. Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit, même si cela concerne le jour du vendredi, c'est-à-dire le verset où Allah Azza wa Jalla nous dit quand la prière est achevée, répandez-vous sur terre et recherchez la grâce d'Allah, à la base, ce verset concerne la prière du vendredi. Mais sa signification porte aussi sur l'ensemble des prières. Voilà pourquoi, wallahu a'lam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de dire en entrant à la mosquée, Allahumma iftah li abwab rahmatik, ô Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde, et de dire en sortant de la mosquée, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ô Allah, je t'implore de m'accorder ta grâce. Une fois que tu as terminé ton adoration, terminé la prière, tu sors de la mosquée, tu pars à la recherche de la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète Ibrahim alayhi salam a dit dans le sens rapproché du verset, recherchez donc votre subsistance auprès d'Allah, adorez-le et soyez-lui reconnaissant. Qu'est-ce que l'on voit dans ce verset ? L'impératif, c'est-à-dire un ordre. Et à la base, lorsqu'un ordre est donné, il induit l'obligation. L'ordre désigne l'obligation. Donc rechercher l'assistance auprès d'Allah et se diriger vers lui dans le cas de la subsistance et d'autres choses est un fondement immense. Ça, c'est la première introduction quant à la question quel est le meilleur moyen de gagner la subsistance. La deuxième introduction, le deuxième point très important, il dit ثُمَّ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ بِسَخَاوَةِ نَفْسِ ليبارك له فيه ولا يأخذه بإشراف وهلع بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. Puis il convient au serviteur de prendre l'argent qu'il gagne, la subsistance qu'il acquiert, de prendre l'argent sans compter, afin qu'Allah le lui bénisse. Il ne doit pas le prendre avec de la considération et du souci pour cet argent. Plutôt, l'argent doit être à ses yeux comme l'accomplissement d'un besoin naturel qui se doit d'être effectué. C'est-à-dire, tout comme il ne va dans ce lieu que pour son besoin, lieu n'ayant aucune place dans son cœur, il en est de même pour l'argent. Celui-ci non plus n'en a aucune place. L'effort pour l'acquérir a la même utilité que ce lieu procure aux besoins corporels. Subhanallah. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit, premièrement, comprends que tu dois t'attacher à Allah. Sache que la subsistance ne vient que d'Allah. Demande-lui avec insistance. Invoque-le. Ensuite, œuvre, va rechercher ta subsistance. Mais attention, quand tu reçois cette subsistance, ne prends pas cette subsistance en faisant ton but, en y rattachant ton cœur, tous tes espoirs, en rendant cette subsistance ton premier souci de cette vie d'ici-bas. Car Allah te le bénira de cette façon. Par contre, si tu le prends à la manière de la personne affamée qui s'est attachée à cet argent, il n'y aura pas de bien dans cela. Et il dit que tu dois faire de cet argent comme le lieu d'accomplissement des besoins, les toilettes. Tu en as besoin. Tu ne peux pas te passer des toilettes. Et pourtant, tu n'aimes pas les toilettes. Tu vas accomplir tes besoins pour te débarrasser de ce qui t'encombre et te gêne. Une fois que tu l'as fait, tu te sépares de cet endroit. Eh bien, l'argent, veut dire l'imam, n'est pas un but. L'argent est un moyen. Et combien de gens ont été distraits par l'argent? Distraits de quoi? Distraits de la prière. Ils ne prient pas. Pourquoi? Ils répondent, parce que je suis pris par le travail. J'ai trop d'occupations au travail. Ou alors, l'un d'entre eux te dit, je rentre épuisé, je m'endors, tellement je suis fatigué. Je n'ai plus de temps pour prier. A'udhu billahi min al-khudlan. Demandons à Allah la protection contre l'abandon d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ou alors, des gens qui prient, mais comment? À la fin de la soirée, ils picorent comme des coqs. Il va travailler toute la journée, sans se soucier de son devoir envers Allah. Il rentre le soir et il rattrape tout. Alors que le Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, a dit, la personne qui sort volontairement la prière de son temps sans excuse valable religieusement, le travail n'étant pas une excuse, ni le commerce, sa prière n'est pas acceptée, même s'il rattrape 1000 fois la prière qu'il a ratée. Dit le Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah. Quand tu lui demandes qu'est-ce qui t'a poussé à retarder ta prière, il te dit j'ai été vendre, j'ai été acheter. Et des fois, tu as la tristesse de voir des musulmans qui travaillent à leur compte, qui sont leurs propres patrons. Ils ne sont sous les ordres de personne. Quand ils étaient sous les ordres d'autrui, ils disaient mon chef ne me laisse pas. Jusqu'à ce qu'Allah leur a accordé de ses largesses. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Je suis trop occupé. Mais jusqu'à quand tu vas être distrait d'Allah? Jusqu'à quand tu vas être la recherche de la subsistance va devenir pour toi un but et non pas un moyen? Que vas-tu dire d'Allah? Pareil pour ceux qui ne payent pas la zakat, l'aumône. Ces gens-là aiment trop l'argent. Ils disent, je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez, j'ai peur que mes biens ne diminuent. Jamais les biens ne diminuent lorsque la personne donne pour Allah. Tabaraka wa ta'ala. Wallahi. Alladhi la ilaha ghayra. Jamais tes biens ne diminueront parce que tu as donné pour Allah. Premièrement. Deuxièmement, même si tes biens devaient diminuer, alors tu dois t'y soumettre. Parce que ces biens t'ont été octroyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Que vas-tu dire? Le jour dernier, celui qui ne paie pas l'aumône, celui qui ne paie pas la zakat, sera ressuscité, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec un serpent qui va entourer tout son corps et qui aura 2 têtes qui seront face à son visage pour lui manger les joues et lui diront ana maluk, ana kanzuk, ana maluk, ana kanzuk. Je suis ton argent, je suis tes biens. Je suis ton argent, je suis tes biens. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Où vas-tu aller avec ton argent? Tu vois la personne prise de soucis, au point ne trouve pas le sommeil, que pour l'argent. Écoute ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, de ces gens-là. Et regarde si tu en fais partie. Il dit, alayhi salatu wa sallam, celui dont la vie d'ici-bas constitue au matin son plus grand souci, lorsqu'il se lève le matin, première chose à laquelle il pense, première chose qui traverse son esprit, l'argent, les chiffres. Wal'iyadhu billah. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, shattat Allahu alayhi shamla. Allah le disperse. C'est-à-dire, Allah désorganise tout ce qu'il entreprendra. Quand il va entreprendre une affaire, il n'y va y voir que des problèmes, des difficultés. Il va sortir d'une difficulté pour entrer dans une autre. Sortir de cette autre pour entrer dans 2 autres. Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que, comme beaucoup de gens, dans le sujet de talab rizq, la recherche de la subsistance, il n'a pas au préalable placé sa confiance en Allah. Et deuxièmement, quand il a pris la subsistance, il l'a pris comme un affamé, comme un chien enragé. Lorsqu'on lui donne à boire, ou quelqu'un qui est assoiffé lorsqu'on l'abreuve. Wal'iyadhu billah. Allah le disperse. Wa farraqa alayhi day'ata. Wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah. Et à la fin, il ne lui viendra de ce bas monde que ce qui lui a été écrit. Regardez la situation de cette personne. Elle court derrière la dunya pour au final n'avoir que ce qu'Allah va lui donner. Elle court derrière la dunya au dépens, au détriment de sa religion, de sa prière, de sa zakat, de son pèlerinage, des ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et à la fin, Allah le disperse, désorganise tout ce qu'il entreprend, et il ne récolte que ce qu'Allah va décider de lui donner. C'était pas meilleur pour une telle personne de se diriger vers Allah et de chercher la subsistance illicite plutôt que de faire passer la subsistance avant sa religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et dit mais celui dont l'au-delà est au matin son plus grand souci, Allah lui réunit toute sa provision, ainsi que sa richesse qu'il met dans son cœur, et la vie d'ici-bas lui vient malgré lui. La vie d'ici-bas lui vient malgré lui. Il tourne le dos à la dunya, et chaque fois, une porte de risque qui s'ouvre. Il se rattache à Allah, tabaraka wa ta'ala, il fait passer la religion d'Allah avant tout, il n'est pas affamé, et chaque fois, partout où il va, il a une facilité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Des fois, il a besoin de quelque chose, il n'a même pas formulé la phrase, il n'a même pas été chercher la chose, elle lui vient. Subhanallah. Wa qala ba'du salaf, certains prédécesseurs ont dit, anta muhtajun ila ad-dunya wa anta ila nasibika min al-akhirati ahwaj. Tu es dans le besoin de cette dunya, mais ton besoin de l'akhira, de l'au-delà, est bien plus grand. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? La réponse, fa in bada'ta bi nasibika min al-akhirah, mur ala nasibika min ad-dunya fantazimhu intizama. Il dit, tu es dans le grand besoin de la vie, tu es dans le besoin de la vie d'ici-bas, mais tu l'es encore plus concernant ta portion de l'au-delà. Ainsi, quand tu as commencé par ta portion de l'au-delà, ta part de l'au-delà, passe sur la part de la vie d'ici-bas et organise-la. C'est comme si tu es en route, tu es occupé. Tu es en route, tu dois aller dans un endroit. Et juste au passage, tu ramasses quelque chose rapidement sur la route. Ta route, c'est ton cheminement vers Allah, ton but. Ce que tu as ramassé au passage, c'est ta subsistance que tu as ramassé dans ton cheminement vers Allah et dont tu n'as pas fait ton but. Allah Azza wa Jalla a dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Je ne veux pas d'eux de subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Certes, Allah est le pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. سبحانه وتعالى. Allah عز وجل t'a créé pour l'adoration. Il t'a créé pour que tu lui obéisses. Il ne t'a pas créé pour que tu l'oublies à la recherche de la dunya. Aujourd'hui tu es riche, demain tu es le plus pauvre. Aujourd'hui tu es le plus pauvre, demain tu es le plus riche. Hakada dunya. C'est comme ça que la dunya est. Et la personne qui a beaucoup dans cette dunya, ça ne veut pas dire qu'elle est aimée d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhib. » Allah donne de ce bas monde à celui qu'il aime et à celui qu'il n'aime pas. « Wa la yu'ti dina illa liman yuhib. » Il ne donne de la religion qu'à celui qu'il aime. Subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah rahimahullah termine ce point. Et là, maintenant, il va répondre à la question. Quel est le meilleur moyen de subsistance? Il dit, وَأَمَّا تَعِيِّنُ مَكْسَبٍ عَلَى مَكْسَبٍ مِنْ صِنَاعَةٍ أَوْ تِجَارَةٍ أَوْ بِنَايَةٍ أَوْ حِرَافَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكٍ فَهَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ وَلَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا عَامًا لَكِنْ إِذَا عَنَّ لِلْإِنسَانِ جِهَةٌ فَلْيَسْتَخِرِ اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم فإن فيها من البركة ما لا يحاط به ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية. Maintenant, quant à une acquisition bien précise vis-à-vis d'une autre, qu'elle soit industrielle, commerciale, matériel, agricole ou autre, cela diffère selon les différences entre les gens. Et je ne sais rien à ce propos. C'est-à-dire que, pareil que le sujet des bonnes actions, il ne peut pas dire à tout le monde la meilleure, le meilleur domaine de subsistance est la menuiserie. Il ne peut pas dire à tout le monde le meilleur domaine de subsistance est la vente et l'achat. Car il y a des gens doués dans la menuiserie qui ne savent pas vendre et acheter. Il y a des gens doués dans la vente et l'achat qui ne connaissent rien de la menuiserie. Donc il n'y a pas un métier qui va être proposé à tout le monde. Mais, regardez ce qu'il dit. Néanmoins, lorsque se présente une orientation pour l'homme, si l'homme penche vers quelque chose, vers un domaine précis, ou peut-être il sent qu'il est à l'aise dans ce domaine-là, que doit-il faire à ce moment-là? Qu'il consulte Allah subhanahu wa ta'ala sur cette affaire. La consultation qui nous a été transmise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il y a dans cette consultation une bénédiction qui ne peut être cernée. Il y a un bien immense dans la prière de l'istikhara. Tu as peut-être trouvé un domaine. Que dois-tu faire à ce moment-là? Tu consultes Allah subhanahu wa ta'ala et lui demandes son aide. Si tu penses que tu peux œuvrer dans ce domaine. Une fois que tu as demandé à Allah, de cette manière, il ne se charge pas quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'une fois que tu as vu un domaine dans lequel tu penches, vers lequel tu penches, tu fais salat et l'istikhara, la prière de consultation, puis tu vas dans ce domaine, et si tu es brillant dans ce domaine, alors tu ne vas pas mélanger avec d'autres choses. Pourquoi? De peur que ça ne prenne tout ton temps. De peur d'être distrait de l'adoration. Tu as trouvé un domaine. Ce domaine te fait gagner ta vie, gagner de l'argent. Reste dans ce domaine-là et ne te concentre pas sur plusieurs choses en même temps. De peur d'être distrait à la fin du rappel d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Quel conseil bénéfique. Quel conseil scientifique de l'imam Ibn Taymiyyah. Rahimahullah. Puis dès que tu as trouvé un domaine qui te semble facile, alors ne cherche pas autre chose. Sauf si dans ce domaine, il y a quelque chose détesté par Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, il a terminé le sujet de la demande de subsistance. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Allahu ta'ala a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك